franceinter.fr. Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Vous êtes économiste polytechnicien, professeur à l'ESCP Europe. Est-ce que vous acceptez l'étiquette d'économiste libéral ?
Oui, même si à titre personnel, je pense que c'est une forme de pléonasme. Je pense qu'un économiste doit être libéral. Mais ce point de vue n'est pas partagé par tout le monde.
Non.
Donc j'accepte cette étiquette à titre de précision.
Voilà. Vous avez dans plusieurs livres célébré la concurrence et appelé à en finir avec les rentes dans ce nouvel ouvrage Valls, Macron, le socialisme de l'excellence à la française. Vous appelez le chef du gouvernement et le ministre de l'économie à renouer avec l'esprit des origines de la gauche, celui des feuillants, avec ses réformateurs qui se retrouvaient dans le couvent du même nom, rue de Castiglione à Paris. Ils incarnent selon vous la gauche moderniste et réformatrice. Vous citez quelques noms, Barnave, Le Chapelier. Comment se fait-il que ces feuillants ne soient pas passés à la postérité, Jean-Marc Daniel ?
Alors, ils ne sont pas passés à la postérité parce que d'abord ils ont été au pouvoir très peu de temps, même s'ils ont fait des réformes considérables, c'est eux qui ont modernisé la France, et ensuite ils ont été éliminés à la fois physiquement et intellectuellement par l'extrême gauche et qui les a rejetés dans les poubelles de l'histoire. Et justement, je dis qu'en réalité l'extrême gauche a une forme de domination intellectuelle sur la gauche en général, mais que les gens qui ont véritablement marqué le pays, c'est des gens qui étaient modérés, comme Mendès France, comme Michel Rocard et comme les feuillants au 18e siècle, à la fin du 18e siècle, au moment de la Révolution.
Et leurs héritiers, ce seraient Valls et Macron ?
Alors, ce seraient Valls et Macron. Quand Valls dit que pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs, il est dans une logique économique libérale. Mmh. Et quand Macron dit le libéralisme fait partie des valeurs de la gauche, il est sur la ligne des feuillants. Donc je dis, puisque vous êtes sur cette ligne-là, allez jusqu'au bout. Et je dis, c'est d'autant plus important que pour la première fois depuis très longtemps, effectivement, il n'y a pas de réplique en face. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'extrême gauche ou ce que j'appelle la gauche brissotine, c'est-à-dire les gens qui vous disent, mon ennemi c'est la finance et qui gouvernent comme leurs prédécesseurs de droite. Mmh. Ces gens-là sont épuisés. Oui. Physiquement et intellectuellement. Et donc, il y a un boulevard pour les feuillants.
Oui, ça, c'est ce que vous appelez le syndrome Blum. Et c'est intéressant. Le problème existentiel de longue date de la gauche est là. Son discours effraie le bon bourgeois et conforte le militant, mais sa pratique afflige le militant sans vraiment convaincre le bon bourgeois. C'est le double discours ou le décalage entre les paroles et les actes.
Oui, il y a en permanence un décalage entre les paroles et les actes. Alors, on focalise ça en ce moment sur François Hollande, mais je rappelle que François Mitterrand était pour la rupture avec le capitalisme, et ça s'est terminé avec une fuite en avant qui a failli nous mettre entre les mains du FMI. Je rappelle que Léon Blum, quand il a pris le pouvoir et qu'une partie de son aile gauche lui disait « tout est possible », il disait « non, tout n'est pas possible ». Et puis alors, il faut faire la distinction entre la conquête et l'exercice du pouvoir, et ça partait dans des discussions byzantines telles qu'il savait les mener. Et donc, en pratique, le militant est toujours déçu.
Oui, mais vous citiez Mendès France et Rocard tout à l'heure, ces deux-là pensent encore pour Michel Rocard qu'il convient de corriger les effets inégalitaires du libéralisme. Et or, c'est pas vraiment ce qu'on trouve dans vos propositions. J'y viens dans un instant.
Oui, si. Je pense qu'il faut se donner des objectifs en termes d'égalité, mais pas en termes d'égalité des places, mais en termes d'égalité des chances. C'est-à-dire qu'il est assez facile de promouvoir l'égalité des places en disant on va taxer les riches. Or, je pense que le véritable enjeu, c'est de donner leur chance aux pauvres. Je suis sur une ligne qu'avait définie Kennedy, qui disait les communistes ont un objectif abaisser les riches. Moi, j'ai un objectif relever les pauvres. Et donc Michel Rocard, par rapport à ça, il a eu des positions qui étaient des positions effectivement que j'appelle donc brissotines, un peu à la Hollande. Je vais rompre avec le capitalisme, il arrive quand même du PSU, il était pivertiste dans sa jeunesse. Mais il a dit aussi, quand il a créé l'impôt de solidarité sur la fortune, que cet impôt était là pour manifester de la solidarité et non pas pour affirmer une revanche sur les riches. Mmh. Et c'est en ça que je l'attribue à Michel Rocard, une position feuillante. On n'a pas à se venger des riches, on a en revanche à essayer de faire en sorte que les pauvres aient leur chance d'avoir un destin qui soit le plus agréable possible.
Mais c'était pas tout à fait ma question. Dans ma question, il y avait l'idée que, par essence, le capitalisme libéral encourage le développement des inégalités et que donc il convient de corriger cet effet dans une économie de marché.
Je précise, c'est-à-dire que je pense qu'il faut voir quelles sont les inégalités qu'il faut corriger. Et donc être obsédé par les inégalités des places, les inégalités de revenus, c'est à la fois c'est facile parce qu'on a un outil qui est très simple, qui est la fiscalité, avec le fait qu'une partie de la population se rebelle contre cette fiscalité. Et ensuite, on a des objectifs qui sont d'ailleurs là aussi assez théoriques. logique, parce que l'écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres, est-ce qu'il doit être de 1 à 10, de 1 à 15, de 1 à 20 ou de 1 à 5? En revanche, je pense que le véritable enjeu de correction des inégalités, c'est la correction de l'inégalité des chances. C'est-à-dire, il faut donner à chacun un système éducatif qui soit performant, il faut donner à chacun la possibilité d'exprimer ses talents. Bon. Il faut donner à chacun la possibilité d'être soi-même.
Alors, je vais citer quelques-unes des mesures qui sont dans votre livre, Jean-Marc Daniel, et vous allez me dire si vous pouvez vous rêver d'une société où il y aurait donc un contrat de travail unique au contenu allégé, où on peut licencier sur une simple notification, c'est-à-dire y compris par un SMS, un marché du travail libre et sans entrave avec des rémunérations qui peuvent atteindre des niveaux très bas, donc revenir forcément sur le revenu minimum imposé par l'État, une société sans impôt sur le revenu, vous évoquez l'idée d'un impôt strictement proportionnel, la flat tax à l'anglaise ou à l'anglo-saxonne, enfin voilà,
j'en ai détaillé quelques-unes. Je réagis à vos trois affirmations. Sur la dernière, la flat tax est un impôt sur le revenu, mais c'est un impôt qui n'est pas progressif,
mais c'est un impôt sur le revenu. Oui.
Bon, deuxièmement, vous dites que je suis pour la disparition du salaire minimum. Je suis pour la disparition du salaire minimum, mais pas du revenu minimum. C'est-à-dire, je pense qu'une société qui est une société dans laquelle nous vivons a les moyens, la possibilité, le devoir de donner à chacun un revenu minimum qui lui permette de vivre décemment. Simplement, quand ce revenu minimum est associé à un salaire minimum, tout le monde le voit en ce moment, ça génère du chômage. Et donc une tentative permanente de corriger ça par des allègements de charges, par des rapports. Il y a une commission qui fixe le niveau du SMIC et elle n'arrête pas de dire qu'il faut surtout pas l'augmenter de plus de l'inflation parce que le SMIC actuel est source de chômage. Donc à partir du moment où ce problème est identifié, il faut contourner ce problème. Mais ce qui est important dans une société, c'est de donner à chacun un revenu minimum. Et puis, dans la première affirmation, le licenciement...
Par simple notification, et le SMS, c'est dans votre interview à l'Express, voilà.
Je ne renie pas ces phrases, simplement je dis, elles sont un morceau de ce que je dis. Je complète ça en disant qu'il faut qu'il y ait en parallèle à la fois une assurance chômage très très bien développée, et d'autre part, il faut analyser le fait que dans la société vers laquelle nous allons, et là c'est le président de la République qui l'a dit, il a dit... le 18 janvier, je crois, au Conseil économique et social et environnemental, que nous allons vers une société où on aura de plus en plus des clients et de moins en moins des patrons. Bon. Et donc, il faut réfléchir à ce qu'est le contrat de travail, ce qu'est la relation salariale, et considérer que effectivement, l'enjeu, c'est un assouplissement de ce qu'était ce contrat de travail du monde industriel, avec une organisation rigide du travail, fondée sur un temps de travail d'abord quotidien, puis ensuite hebdomadaire, vers des relations différentes. Ce qui est important encore dans tous ces éléments que vous mettez en avant, c'est deux choses pour moi. La première chose, c'est que la flat tax, ça veut dire qu'on n'est pas là pour se venger des riches. Et là, je reprends encore une fois ce que dit Rocard. On est là pour faire en sorte que tout le monde contribue à l'effort de développement de la société, au service public, mais pas de façon à punir les riches. En revanche, on est là pour aider les pauvres. Et aider les pauvres, ça passe par leur revenu minimum, mais pas par un salaire minimum.
Dans quel pays ces recettes-là ont-elles été mises en œuvre? Ou alors, dans quel pays vous, vous sentez... De quelle politique publique vous sentez-vous le plus proche à l'étranger?
D'abord, normalement, historiquement, la gauche porteuse d'avenir, elle n'avait pas de modèle. Elle créait un modèle. Les révolutionnaires de 1789, ils ne disaient pas, on va faire la même chose que dans tel ou tel pays. Ils inventaient un pays. Deuxième élément sur... je me propose d'essayer d'inventer un pays. Deuxième élément, il y a des pays qui sont engagés dans ces voies. Sur le revenu universel, la Finlande est en train de réfléchir à ça. Sur les réformes sur le salaire minimum et sur les corrections au travers d'un revenu minimum, la France est engagée dans ça parce que la prime d'activité, qui est une nouvelle version de ce qu'avait été la prime pour l'emploi, est dans cette logique-là. Sur le plan de l'essentiel de ce programme, il y a des pays qui ont annoncé ces programmes. Je parle dans le livre du manifeste Blair-Schroeder de 1999, que notre gauche, que j'appelle Brissotine, notre gauche révolutionnaire mais qui ne fait rien, notre gauche de gouvernement, hein, Monsieur Jospin qui dit « je suis le plus à gauche », mais il n'a pas fait la tiers ou la moitié de ce qu'a fait Blair ou Schroeder. Et donc, eux, ils ont proposé...
Il a fait la prime pour l'emploi.
Il a fait la prime pour l'emploi, mais il a, par rapport à ce qu'il y avait dans le programme Blair-Schroeder, il n'en a pas fait, encore une fois, la moitié ou le tiers.
Jean-Marc Daniel, on va poursuivre cette discussion dans quelques minutes avec les auditeurs de France Inter qui ne manqueront pas de vous interpeller. Il est 8h32.